Allez, bah, voilà.
C'est la deuxième session des années 90.
On vous en reparle
très vite.
On vous en reparlera.
Allez, ciao.
Bye bye.
Ciao.
Chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space.
20h03 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver votre émission sportive Génération Sport. On se retrouve juste après le générique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour une émission très chargée, très intense, autour du sport local mais aussi du sport international. Vous le savez, il y a pas mal de choses en ce moment. Voilà, c'est Roland Garros, c'est la fin des saisons de foot, c'est aussi la fin de la saison NBA. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. En ma compagnie aujourd'hui, on ne change pas une équipe qui gagne avec Faustin à ma gauche. Salut Faustin, comment ça va ?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah, ça va toujours très bien malgré le pollen.
Oui, le pollen qui nous massacre.
Et des ravages.
Ouais, apparemment, ça va être de plus en plus dur chaque année.
J'ai vu ça aussi.
À cause du réchauffement climatique. Donc, voilà, va falloir s'équiper en ventoline et en mouchoir. Cédric est à ma droite. Salut Cédric, comment ça va ?
Salut à tous. Écoute, vive le sauna.
Oui.
Vive le retour du beau temps.
Il fait actuellement 45 degrés dans le studio. Voilà. Donc, heureusement pour nos auditeurs, vous n'avez pas l'odeur, évidemment, qui émane de ce studio. Mais effectivement, c'est le début de chaleur et fait très chaud. C'est... On n'a pas un studio climatisé.
Ça va, pour l'instant, c'est pas le pire qu'on a connu, mais
oui. Cet été, pour les émissions
cet été, ça va être sympa, je pense.
Voilà, sous 40, ça va être pas mal. Donc voilà, au programme de l'émission, on va revenir sur la fin de saison du SCO qui a terminé donc du côté de Nantes. Et puis on va parler aussi de la finale perdue par le SCO Handball, la demi-finale perdue par les Loups d'Angers. Et puis on reviendra, c'est vrai qu'on était jeudi dernier à la conférence de presse de l'UFAB qui revenait sur la saison 2022-2023 mais aussi sur ce qui va arriver cette saison prochaine en 2023-2024 avec donc le président Brito De Souza et la coach Aurélie Bonan qui était donc du côté de Jean Bouin pour voilà présenter un peu l'effectif notamment. On va passer quelques extraits si c'est possible évidemment dans l'émission. En tout cas voilà, c'est vrai que c'était assez très intéressant comme exercice.
Oui, sans trop spoiler, oui, enfin on en a appris un peu plus sur les nouvelles arrivées. Alors on en connaissait déjà deux avant cette conférence de presse, on a eu aussi voilà le nom du nouvel adjoint puisqu'on savait aussi qu'il y avait un départ de ce côté-là.
Ouais.
On a eu quelques infos voilà sur la santé du club et la grande question qu'on pouvait se poser c'est qualifié ou pas pour la Coupe d'Europe. Donc on vous expliquera tout ça.
Effectivement, on vous expliquera tout ça dans la suite de l'émission. Eh ben, on va commencer d'ailleurs sans plus tarder par le football avec le SCO. Samedi soir à la Beaujoire se jouait le dernier match du SCO en Ligue 1 depuis sa remontée en 2015. Déjà condamné à la Ligue 2, les Angevins avaient l'opportunité de faire couler avec eux leur rivaux nantais s'ils parvenaient à accrocher ne serait-ce qu'un point. Malheureusement, ce sont les Canaris qui ouvriront le score rapidement à la 16e minute de jeu après un débordement de Blas et une finition de Ganago. Les Angevins ne parviendront pas à revenir dans la partie. Et avec la défaite d'Auxerre 3-1 contre Lens, les Nantais pouvaient exploser de joie au coup de sifflet final avec ce maintien difficilement acquis. Pour le SCO, l'avenir s'inscrira du côté de la Ligue 2 BKT, on le sait déjà, dans un championnat à 18 relevé où ils y retrouveront un autre voisin régional, le Stade Lavallois, qui est parvenu à se maintenir lors de la dernière journée. Le chantier au mercato d'été s'annonce donc chargé, hein, mais vous pouvez compter donc sur nous pour suivre les dernières rumeurs de transfert tout au long de l'été, en sachant que quelques départs seront annoncés d'ici peu. Déjà assuré de remonter en Pro League après une saison après l'avoir quitté, les handballeurs angevins devaient défier la réserve de Montpellier avant de pouvoir partir en vacances et recharger les batteries. Et l'enjeu n'avait rien d'anodin puisque ces deux équipes se disputaient le titre de champion de France de National 1 dans leur salle du Haras où ils n'avaient pas encore perdu cette saison. Les joueurs de Semtej ont vécu un véritable cauchemar face à la jeune garde Héroltaise. Malgré un début de match équilibré, les scoistes ont commencé à craquer en fin de première période en encaissant un 6-0 qui les faisait rentrer au vestiaire à 18-12. Si les Angevins ont pu légèrement recoller à la reprise, la fin de partie fut douloureuse avec pour les Noirs et Blancs avec cet écart final de 13 buts en la faveur des Montpellierains. Donc score final 36-23. À cause d'un effectif diminué par les blessures et les départs, cette finale est donc à oublier et le club doit désormais se tourner vers son avenir en Pro League avec un mercato qui va être très important à négocier pour être à la hauteur en deuxième division.
Oui. Je me posais une question justement par rapport au club. Comme c'est la réserve qui joue.
Non, je pense pas qu'ils vont monter.
Bon, ouais, ils ne feront pas monter parce que tu dois toujours avoir deux divisions d'écart entre le club principal
C'est ça. Et puis surtout, c'est un statut professionnel. La Pro League, en tout cas, les champs supérieurs. Donc, je pense qu'ils vont rester, mais ils ont un trophée quand même qui est quand même pas dégueu ouais. pour une réserve. Donc,
Puisque ils peuvent pas faire le doublé du coup.
Le doublé, la montée.
Non, le titre, voilà, pour la réserve. et en même temps le titre pour l'équipe principale.
Alors du coup le titre est perdu depuis ce week-end.
C'est
le PSG qui a été sacré champion de France. Ils ont battu Nantes dans un dernier match au sommet et donc voilà les Montpelliérains qui ont un peu on va dire choqué la fin de saison puisqu'ils étaient bien aussi en l'équivalent de l'Europa League, voilà la C3, ils étaient plutôt bien, mais ils ont perdu assez surprenamment en demi-finale. Donc voilà, c'est vrai que ça reste une fin de saison en demi-teinte hein, pour Montpellier. En tout cas, la réserve a réalisé quand même quelque chose de grand en éclatant, on va dire Angers. Et bon, Angers qui est un peu sur les rotules hein, sur la fin de saison, avec voilà beaucoup de matchs disputés auparavant, et puis surtout voilà des émoluments dans l'effectif. En tout cas, voilà, je pense qu'au niveau du mercato, le SCO en balle va bien recruter comme ils ont l'habitude de faire. Et puis ben voilà, on verra tout simplement s'ils sont capables de faire quelque chose de grand pour la suite et puis surtout de rester peut-être plus longtemps en Pro League.
C'est toujours dommage quand même que finalement les équipes réserves jouent dans le même championnat que des équipes qui voilà sont sur les équipes principales et qui pourraient monter normalement. Voilà, je trouve ça, enfin là je sais pas si combien il y a de montées exactement, mais s'il y a deux montées là, tu vois qu'il y a une montée du coup qui sert à rien.
Je pense qu'elle va être donnée à une autre équipe. En tout cas, voilà, on verra ça.
J'ai jamais compris pourquoi ils font pas simplement un championnat des réservistes.
C'est vrai qu'ils pourraient faire ça, très clairement, mais c'est ce qui est fait dans certains sports. Le basket, je crois que c'est comme ça, les espoirs. La réserve, mais c'est les espoirs.
Espoir, ouais,
ils s'affrontent entre eux, pareil, et dans la même division. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Mais pareil, au niveau du foot, je crois que la limite, elle est là. Tu peux pas monter en N1.
Ouais.
C'est pas monter en national. Donc voilà, effectivement, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais en tout cas, voilà. L'important, c'est que Angesco, a validé sa montée en Pro League. Et on suivra ça, évidemment, tout ce qui se passera pour l'année prochaine. La semaine dernière, on était en pleine demi-finale de championnat de France de tennis de table avec cette demi qui opposait les Loups d'Angers à Rouen. Le match aller n'a pas du tout tourné en la faveur des Angevins qui ont perdu la rencontre 3-1 malgré le succès héroïque de John Persson qui avait sauvé 5 balles de match avant de l'emporter. Le match retour s'annonçait donc tendu à la salle de l'Europe à Angers et il l'a été. Comme à l'aller, l'équipe locale l'emportait donc 3-1 et en cas d'égalité, les deux formations se départageaient au nombre de 7 remportés. Pour cette opposition-là, ce sont les Rouennais qui ont pu éliminer les Angevins avec 18-7 gagnés contre 16. Donc voilà, c'est malheureusement une fin de série, j'ai envie de dire, pour les Loups d'Angers qui restent sur 2 titres de champion de France consécutifs et qui se font sortir donc par les Rouennais en demi-finale. Donc voilà.
Une règle qu'on n'apprécie pas forcément. Je trouve ça toujours dommage quand tu joues 2 matchs. Mais même c'est ce qui se passe sur les faces aller en play-off hein, au basket cette année chez les filles. Ouais. Je trouve ça toujours dommage qu'en fait on te dit t'as 2 matchs, ok. Mais au final tu dois gagner les 2 pour être sûr. Mais en cas d'une défaite ou d'une victoire, on va faire le cumul des 2 matchs. Je trouve ça dommage. Enfin, dans ces cas-là, on fait soit un 3e match, on fait un tirage au sort pour savoir où tu joues. Ou soit on fait au basket ce serait plus compliqué, quoique on pourra instaurer des prolongations directement. En soi ça pourrait le faire, mais là je pense que il y a peut-être moyen dans ces cas-là de faire comme dans certaines compétitions, tu prends soit tes meilleurs joueurs et tu fais jouer un dernier match décisif, ou soit tu fais un tirage au sort selon les catégories. Et puis tu fais, enfin comme le fait un peu en judo quand on va au Golden Score en équipe, voilà c'est un tirage au sort aléatoire, c'est telle catégorie qui représente. Puis voilà, je trouve que dans l'esprit c'est beaucoup plus déjà marquant, je trouve, en termes de scénario.
Ouais.
Parce qu'au moins t'es sûr que t'as tout donné, tandis que là t'as tout donné, mais au final tu te fais avoir quoi.
Ça, même se qualifier sur une défaite en fait. Si t'as le cumul des scores, c'est une sensation bizarre, tu vois.
Oui, oui,
c'est pareil au foot, hein, y a ça aussi, les phases finales de Coupe d'Europe, C'est un peu ça aussi.
Ouais, ça. Et puis, ce qu'il aurait pu. Voilà, ça aurait été beaucoup plus simple de juste jouer un match de plus. Des étapes, c'est pas.
Bah, je trouve dans l'esprit, ouais.
C'est pas choquant, effectivement, de faire un match de plus. À noter que celui qui avait remporté la Génération d'or du meilleur sportif angevin de l'année, Joao Gerardo, donc, a perdu, dans cette finale, perdu ses trois matchs qu'il a pu disputer sur l'ensemble des deux rencontres. Donc voilà, c'est plus John Person en tout cas cette année qui s'est mis en valeur du côté des Loups d'Angers.
En tout cas, ça confirme quand même les belles années qui s'enchaînent pour le club.
Ouais, ça quoi. Ouais, carrément, ça reste voilà dans le top 4 en tout cas. C'est un club qui poursuit donc sa progression tout au long des saisons.
Et ça va peut-être leur coûter cette année leur Génération d'or, quoi.
Peut-être, on verra. On planche un peu en ce moment sur les nominés, donc voilà, évidemment, chers téléspectateurs, enfin, chers auditeurs, pardon, on n'est pas à la télé. Chers auditeurs, on vous dévoilera ça bientôt, puisque bah voilà, la saison est quasiment finie pour tout le monde. Les générations d'or vont approcher à grands pas. Sur le basket. Faustin, t'as pas de grosses nouvelles,
non.
Puisque Cholet et le AB ont été éliminés en B-Click Elite et en Pro B. Mais t'as des nouvelles au niveau du mercato, notamment
ouais,
le AB.
C'est ça, le AB, il y a eu une signature d'un jeune meneur qui s'appelle Aurel Brenna, qui a 19 ans. Il est passé d'abord par le pôle France Espoir, on parlait un peu tout à l'heure des jetons des espoirs, ainsi que par Nancy avant du coup d'arriver cette saison à Angers, voilà.
Donc effectivement, ça planche un peu déjà sur le mercato,
voilà.
Ça prépare un petit peu tout ce qui peut arriver du côté de l'EAB, donc ça va être assez intéressant à suivre pour l'EAB qui est toujours un club en constante progression, pardon.
Tout à fait.
Donc on verra ça pour l'année prochaine. Au niveau de l'UFAB, alors ce qu'on avait prévu de vous dire sur l'UFAB, malheureusement on ne pourra pas vous diffuser les moments de la conférence de presse, encore une fois, petit bug technique. D'ailleurs on n'est pas revenu sur celui de la semaine dernière, mais à coup de ma part, puisque voilà, j'ai pas assez vérifié si on était en direct ou pas, donc voilà, on avait parlé pendant 15 minutes pour rien, on va dire. Voilà, bon, ouais, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, j'ai envie
ça
de dire.
Ça nous a fait un starter en off.
Ouais, c'est ça, ouais. J'étais assez dégoûté, hein, je vous cache pas. Mais bon, en tout cas, voilà, on a quand même pu faire l'émission, on a pu faire l'interview aussi avec l'Anjou Pop Corner. Au niveau de la conférence de presse, donc on en a un peu parlé au début, Cédric. Mais voilà, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est dit avec le président et la coach. C'était très intéressant. Voilà, c'était pas une conférence de presse pour rien. Il y avait des choses à dire.
Non, mais j'ai envie de dire comme toutes les conférences de presse où j'ai été invité à l'UFAM, c'est vrai qu'il y a toujours voilà des informations qui sont données. Là-dessus, ils sont pas très généreux là-dessus vis-à-vis de la communication de. Au niveau du club là-dessus, c'est très appréciable justement.
Ouais, c'est clair, il y a toujours quelque chose de limpide, et puis même le président le rappelait directement, c'est que voilà, lui il est
tout ouvert, il reste disponible voilà,
aux médias, etc. Donc voilà, ça a commencé justement avec les mots du président qui a commencé par féliciter en tout cas, indiquer qu'il était fier de ce que David Gauthier a fait avec l'ASVEL. Voilà, ça reste toujours important parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais celui qui était l'entraîneur l'année dernière de l'UFAB a terminé cette année champion de France, meilleur entraîneur de l'année et a gagné l'Eurocoupe. Donc il a fait doubler, plus il a été lui-même dans sa fonction récompensé. Donc voilà, il a tenu à féliciter, en tout cas à dire qu'il a félicité David Gauthier personnellement, qui était au club depuis longtemps.
Oui, et puis qui était aussi à l'origine du recrutement des renforts de cette année.
Exactement, évidemment. Donc c'est toujours toujours intéressant. Et puis voilà, évidemment, il a félicité aussi l'effectif actuel, enfin l'effectif de la saison dernière. Il a félicité donc Aurélie Baudan qui est arrivée, qui a dépanné évidemment et qui a pris en main l'équipe assez rapidement. Et surtout, il a dit ce qu'il fallait dire. L'objectif fixé était atteint, le maintien en LFB. Et puis même avec l'Eurocoupe, il disait que ça a été même un peu plus loin que ce qu'il imaginait. Donc voilà, c'est vrai que voilà, on sentait un président satisfait.
Oui, en tout cas, sur ce point de vue sportif, il avait rien à dire, rien à contester. Hein. C'est vrai que comme lors de la soirée partenaire, voilà, c'était le même discours. Il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. Voilà, ça prouve aussi qu'il y a une bonne ambiance quand même au sein de ce club. Voilà, que ça travaille sainement pour construire l'avenir. Que ça, enfin, il n'y a pas une petite guéguerre. Voilà, il faut que ce soit absolument comme ça, comme ça, comme ça. Oui, là, on a sorti même dans les échanges sur cette partie-là entre la coach et le président. Voilà, on sent qu'il y a quand même une sorte de complicité, j'ai envie de dire.
Ouais, voilà, une alchimie de travail qui est toujours intéressante pour un duo président coach. Sinon, il a voulu remercier notamment trois joueurs en particulier, Alexis Peterson, qui a réalisé la meilleure performance de la Ligue, Leila Lacan, qui a un peu explosé du côté de Angers et qui s'est surtout connu ses premières capes en bleu récemment, et puis Kekeli Lenga, qui est tout simplement la capitaine de cette équipe et qui a aussi répondu sur le terrain après une saison, première saison assez, on va pas dire compliquée, mais qui était moins forte, en tout cas que celle-là. Sinon, il a voulu dévoiler tout simplement l'effectif de la saison prochaine. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, on va retrouver donc Kekeli Lenga, toujours, Isis Arando, voilà, qui est là depuis assez longtemps.
Plus de 6 ans au club, ou 6 ans tout juste.
Enfin, c'est ça.
C'est un peu la doyenne du.
Exactement, elle connaît parfaitement le club. Donc Axel Merceron, qui sera là, Nabala Fofana, Jasmine Bailey et Leila Lacan, qui on avait eu la coach, qui nous avait dit qu'en fait Leila Lacan, elle avait été sollicitée dès décembre, et elle l'a rappelé donc dans cette conférence de presse, et ça a un choix de Leila Lacan. En tout cas, elles ont beaucoup parlé avec la coach pour la garder une saison de plus, et voilà, continuer du côté de l'UFAB à grandir. Et puis après, c'est vrai que l'année prochaine, ça risque d'être compliqué de la garder, mais en tout cas voilà, elle aura un rôle, ça c'est sûr et certain, plus important dans les années à venir.
Clairement, on va remplacer Peterson techniquement dans le rôle qu'elle avait.
Sinon, donc deux autres arrivées qui avaient été déjà annoncées avant la conférence de presse, c'est Kaba Maseni, mais aussi Julie Vojta. Je sais pas comment on prononce Vojta. Donc Vojta, elle a connu déjà le championnat de France avec Tarbes l'année dernière. Et puis Kaba Maseni, elle débarque un peu en Europe. Elle a fait notamment pas mal d'universités aux États-Unis. Et puis elle est internationale, je crois, guinéenne. Sinon, ils ont annoncé ils ont officialisé deux nouvelles joueuses. Donc c'est Océane Montpierre et Marine Dursus. Donc voilà, c'est deux jeunes joueuses qui arrivent du côté d'Angers. Marine Dursus, qui est un petit peu, on va dire ça comme ça, le pas un copier-coller, mais tu vois ce que je veux dire.
Un parcours similaire. Oui.
C'est ça. Elle est là à Lacan, puisque voilà, elle est tout simplement de un an de moins sa cadette, et puis elle vient du Pôle France. Donc ce que disait Aurélie Bonan, c'était que évidemment elle souhaite que ce soit un parcours à la Leila Lacan, donc avec ce même rendement, cette même efficacité, cette même adaptation au monde professionnel qui se fera rapidement. Donc elle espère que ce soit ça, mais bon, voilà, c'est toujours des risques à prendre quand on fait venir une jeune joueuse de 18 ans. Elle est de 2005, donc voilà, ça reste très très jeune pour une joueuse qui débarque en LFB. Donc voilà, c'est assez intéressant par rapport à ça. Et puis au niveau de Océane Montpierre, je crois qu'elle suivait déjà un peu la joueuse. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle la suivait déjà quand elle était coach à Nantes. Et donc voilà, forcément quelqu'un de suivi par la coach. Elle était donc à Roche-Vendée, et elle était aussi elle est passée par le centre de formation de Bourges. Voilà, donc Océane Montpierre qui va être à suivre pour cette année prochaine. Donc voilà.
Le bilan, c'est que ça nous fait une belle équipe très jeune quand même.
Ouais. Très jeune, à la fois de l'expérience.
Et de l'expérience.
Elenga, Arondo, Bailey. Donc ça va être très intéressant. Le président paraissait complètement emballé par le projet, par les joueuses. Il sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc voilà, c'était toujours quelque chose d'intéressant. Y a un extrait que je voulais diffuser qui est, je sais pas si on arrivera avant la fin de l'émission, mais en tout cas qui était très intéressant, qui portait sur le système de jeu au niveau du poste de meneuse notamment. Il y a des joueuses qui vont jouer 2 au lieu de 1, mais en tout cas voilà, il va y avoir en tout cas un vrai accompagnement au poste 1 avec Lacan et Arondo notamment. Donc ça va être évidemment très intéressant à suivre l'année prochaine. Bon, c'est vrai que sinon il y avait
ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce qui a été précisé, c'est que l'équipe là qu'on annonce, sauf vraiment quatre forces majeures, ce sera l'équipe oui. de départ dès la préparation, tout ça.
Le mercato est bouclé.
Le mercato est normalement bouclé.
C'est ça. Le mercato est bouclé.
Ce qui permet de travailler déjà sereinement.
Il n'y a pas d'autre arrivée et il n'y a pas d'autre départ.
C'est ça.
Sinon.
Peut-être un mot du coup.
Vas-y, je t'écoute.
Comme on parle du championnat, autant en parler maintenant. C'est que du coup, en termes de budget, ça devait être étudié là dans ça arrivait très rapidement. Normalement, il n'y a pas de souci. Le budget pour la saison, il est OK.
C'est ça, pour la Ligue féminine.
Pour la Ligue, oui.
Sauf que l'un des dossiers qui était le plus important, c'était l'Europe, l'Eurocoupe. La dernière, Angers, ça marche comme ça au basket féminin, a été invité à jouer l'Eurocoupe. Sauf que là, s'ils sont invités de nouveau à jouer l'Eurocoupe, il va manquer 100 000 euros au club de l'UFAB pour évoluer en Eurocoupe. Alors, il a essayé d'un peu, je vais pas dire éviter le dossier, mais voilà, c'est assez flou quant à la possibilité de refuser véritablement l'Eurocoupe. En tout cas, tout ce qu'il dit, c'est que si on propose l'Eurocoupe à l'UFAB, il manque 100 000 euros. Pourquoi donc? Eh bien, parce que la ville a baissé de 50 000 euros son budget alloué au club et 20 000 euros de baisse pour la région qui offrait aussi un certain budget à l'UFAB.
Et on n'a pas su trop au niveau du département où c'en était, mais je crois que le département, c'est un peu aussi dans la même logique de baisse.
Voilà, c'est ça.
D'où il posait la question. On arrive à une année olympique. On essaye de valoriser le sport en France et encore plus le sport féminin.
Ouais.
Lui, il comprenait pas. Il comprend qu'il y ait des baisses parce que voilà, il y a la crise aussi qui se lie à ça. Mais comme il expliquait, il y a quasiment 3 clubs élites maintenant.
Ouais. À la ville d'Angers.
La ville d'Angers. Donc lui, ce qu'il aimerait, c'est déjà une reconnaissance du sport féminin.
Oui.
Parce que apparemment, voilà, les budgets ne sont pas identiques entre le sport féminin et le sport masculin. Donc déjà, pose peut-être un petit problème, puisque le club, que ce soit des femmes ou des hommes, il fonctionne pareil.
Évidemment.
Donc voilà, déjà, il y a ça qui posait un peu comme question. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu un cheval de bataille sur plusieurs années pour avoir cette reconnaissance.
Ouais.
Ensuite, ce qu'il expliquait, c'est que la somme, en fait, elle est pas anodine. Elle est vraiment expliquée. C'est que ça correspond à peu près à ce qu'ils ont dû débourser pour faire cette Coupe d'Europe cette année.
C'est ça.
Sachant ce qu'il expliquait, c'est qu'une Coupe d'Europe, les premiers tours, on peut réussir à préparer le budget à peu près, puisqu'on sait où on va aller. Enfin, on savait où on allait, puisque c'était vraiment un peu en zone, on va dire, régionale. Donc, on savait qu'il allait y avoir des petits trajets plus ou moins longs, mais là, on était sûr de pas aller à l'autre bout de l'Europe. Tandis que, en plus, cette année, il y a un changement de format. On peut se retrouver à jouer 3 clubs, au bout de l'Europe, donc ça veut dire forcément des coûts de transport et de logement plus importants. Donc pour une première partie, on va dire pour les poules initiales, ok, on connaît où on va. Donc il expliquait qu'on peut anticiper à l'avance les billets d'avion pour trouver des techniques pour les pays moins chers, pareil pour les hôtels. Sauf que généralement, le calendrier de la Coupe d'Europe arrive quand même assez tard.
Ouais, bah.
Donc ça enlève déjà un délai de préparation.
Ça fait des coûts en plus du coup.
C'est ça. Et ensuite, une fois que cette première phase est faite, et si on passe, on va dire, au format play-off, là, le problème, c'est qu'on sait jamais où on va aller, et on le sait vraiment, j'ai envie de dire, 15 jours à l'avance. Quoi.
C'est ça.
Et là, du coup, bah, c'est là où, en fait, le budget explose plus facilement, sachant que le club, cette année, sur le bilan comptable, était en négatif, mais ce qui s'apparentait à un bilan quand même positif,
ouais, 1000
c'était,
euros,
c'était 1000 euros, voilà. C'est trois fois rien pour un club, quoi. Ouais. Surtout avec, voilà, tout ce qu'ils ont.
Budget initial.
Voilà, c'est ça. Donc, bah, c'est vrai que c'est le problème de toujours de l'argent. Comme j'expliquais, si ça doit se faire, eux, ils sont intéressés quand même pour aller en Europe à nouveau. Mais il faut pas que ça se fasse au décriment de la santé du club, puisque nous, on voit l'aspect sportif, on voit l'enchaînement des matchs, mais derrière, il y a toute la structure du club. Bon, le président est bénévole, hein, faut le rappeler. Mais derrière, il y a tous les gens qui travaillent dans les bureaux, que ce soit dans la com, dans le partenariat, enfin, dans beaucoup de choses. Voilà, eux, ils ont un salaire, donc forcément, bah, faut pas que ce soit les premières victimes. De juste de dire, oh, bah, on a eu le plaisir d'aller jouer à la Coupe d'Europe. Eh, mais si derrière eux, ils doivent sauter, bon, bah, c'est triste pour l'image du club et c'est triste aussi pour ces gens-là. Donc, on sent que, enfin, il y a ce côté quand même famille qui passe au-dessus quand même de la jouer absolument pour tout.
Ouais, ça, ils veulent préserver le club.
C'est ça, pérenniser le club.
Que de tout mettre pour jouer une saison de plus en Europe.
C'est ça. Après, sachant que, voilà, c'est pas que Angers hein, qui a ce souci-là de financement. Même les plus gros clubs, c'est aussi compliqué pour eux de pouvoir gérer ce.
Ouais,
c'est pas là parce qu'au final, une Coupe d'Europe ne rapporte rien. C'est souvent, on voit au foot.
C'est ça.
Ça rapporte de l'argent. Selon ton classement, là, ça n'a pas l'air du tout le cas. Donc,
ouais, c'est pas les mêmes échelles.
C'est ça, ouais.
Donc, forcément. Voilà.
C'est ça, c'est un équilibre à trouver qui est assez difficile, en fait. Parce que, surtout quand tu as des baisses d'argent, de subventions publiques, donc c'est assez compliqué. Donc, on va dire qu'idéalement, l'UFAB ne souhaite pas aller en Europe.
Disons que c'est pas qu'il ne le souhaite pas, c'est que. Ils souhaitent le faire,
oui, alors,
mais dans des conditions.
Ils cherchent les 100 000 euros.
En fait, ils attendent déjà la réponse, donc, de la validation du budget pour la saison régulière. Et en fait, une fois que ça va être fait, c'est là, on va leur dire, est-ce que vous voulez aller en Europe? Là, ils vont se poser la question de oui ou non. S'ils se disent, OK, on y va. C'est là que c'est la partie la plus compliquée, c'est d'aller chercher, cette somme, sachant qu'ils veulent quand même qu'il y ait une partie, voilà, fait par la région, la mairie, tout ça, qui aide. Et forcément, il faudra aussi qu'ils aillent chercher des partenaires extérieurs, privés. C'est ce qui expliquait un petit phénomène, c'est qu'ils ont eu plus de rentrées, on va dire, côté privé cette année, par rapport à ce que les aides, on va dire, de la région, département, tout ça, il y avait plus d'entrain du côté privé, parce qu'ils se rendent compte aussi, les privés, que... Bah, pour leurs entreprises, s'associer au sport féminin, ça, c'est une bonne image de marque, puisque bah, quand même le sport féminin, surtout Angers, commence à bien se développer. Ouais. Voilà.
Donc c'est vrai que ça va être intéressant ensuite de savoir s'ils vont, elles vont jouer la Coupe d'Europe. Pour finir un peu là-dessus, donc également nouvelle, je crois que tu l'as dit un peu Cédric, Marius Blanchard arrive en nouvel entraîneur adjoint avec le départ de Maxime Sébron qui était resté pendant longtemps à Angers et qui va rejoindre David Gauthier du côté de l'ASVEL. Et puis voilà, il a aussi parlé, le président, de sa volonté de se mettre un petit peu en retrait pour avoir un directeur général qui pourrait chapeauter l'exécutif, en tout cas du côté du club. Donc,
en tout cas, ça c'est intéressant. Un projet, on va dire, sur du long terme.
C'est ça.
Mais il souhaite que ça se réalise le plus tôt possible, parce que ça prouverait que le club encore une fois, est sain.
Et fonctionne bien. C'était déjà quelque chose où il y avait eu des rumeurs. Souvenez-vous, ça fait peut-être un an et demi, où Ouest France avait annoncé que Charles Diers était en passe de devenir justement directeur général de l'UFAB. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que voilà, il était toujours et il l'est toujours adjoint maire au sport et donc il ne pouvait pas cumuler les deux mandats.
Alors, bref. On sait qu'il y a eu une réponse apparemment de la mairie, genre je ne sais plus si c'est dans Ouest France ou le Courrier de l'Ouest justement par rapport au système de financement.
Ouais.
Alors moi, j'ai pas pu lire l'article parce que comme 90% des articles maintenant sur Ouest France et le Courrier de l'Ouest, c'était payant.
Oui.
Donc bah, peut-être que dans nos éditeurs, il y a des gens qui auraient vu l'article et s'ils veulent nous le partager justement pour qu'on puisse avoir cette vision de la mairie. En complément justement ce qui a été dit, ce qui pourrait être intéressant, parce qu'effectivement, l'extérieur c'est un peu flou, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, et c'est vrai que je pense que l'article devait être très intéressant là-dessus.
Ouais, donc voilà, on suivra ça pour l'UFAB. Sur la saison prochaine, rien d'autre à rajouter, je pense que ça c'est clair. Peut-être Faustin, toi qui as écouté, parce que voilà, on a enregistré, tu as pu écouter après, c'est quoi ton ressenti par rapport à ce que tu as pu entendre?
Sur le projet sportif, il a l'air intéressant, il a l'air clair et il a l'air clair. Aurélie Bonan a l'air de savoir ce qu'elle fait et de savoir où elle veut aller, en donnant notamment les rênes à Leïla Lacan. J'ai trouvé c'était ce qui ressortait le plus dans son discours, de vraiment dire Leïla Lacan va prendre la mène de l'équipe, elle va un peu remplacer Alexis Peterson. Sur un point de vue toujours sportif, là où j'ai un peu peur, c'est au niveau intérieur, où certes il y a une recrue. Mais c'est pour remplacer concrètement Ivana Yakupkova. Mais ça risque toujours d'être compliqué avec une joueuse qui doit s'adapter à la Ligue féminine française, etc.
Tu parles de laquelle
L'international de Guinéenne.
Akaba Masséni.
Voilà, ça, elle va jouer intérieur et elle fait entre guillemets que 1m90.
Ouais.
Le temps qu'elle s'habitue, etc., peut-être que le début de saison va être compliqué au niveau intérieur, où on aura une profondeur de banc un peu moins large.
Ok. Ce qui était aussi une des craintes de l'année dernière.
Exactement. Donc, j'espère qu'elle va réussir à s'adapter rapidement pour renforcer notamment Kekeli Elinga.
Ouais.
Mais c'est pas dit et c'est pas encore fait. Il va falloir vraiment bosser là-dessus, à mon avis.
Très bien.
De toute façon, il y a déjà des matchs.
Ouais, des matchs amicaux.
Amicaux de prévu. Enfin, on a eu là toutes les dates, je crois quasiment. Donc ça, on en reparlera plus tard. Mais le début de saison, en fait, va arriver finalement très tôt avec la préparation. Je pense que l'acclimatation justement des nouvelles joueuses va se faire plus facilement peut-être que l'année dernière avec le changement d'entraîneur. Il y en a certaines qui étaient arrivées assez tard aussi. Enfin.
Ouais. On suivra ça, c'est vrai que peut-être qu'ils vont pouvoir bosser dans un meilleur contexte cette année. En tout cas, voilà, on referme cette page du Fab. On va passer à la pause musicale et on se retrouvera juste après. Voilà, c'est un peu le début de l'été, donc on va s'écouter un hit de l'été avec Tout va bien de Alonso, Nino et Naps. Et on se retrouve juste après.
Sur my eyes only dans son bigo. Bébé va rentrer tard, je la charge en moto, en casque Momo. Mamé, à la fois je lui passe la veste à trois points chez Moschino. Hombre, tu ne sais pas, mais je te voulais depuis Mino. Mamé, mais là je te sais bagarrer, on va seulement se garer. Je te joue pas de violon, tu sais que je suis violent. Le bif, tout ça c'est carré, ton avenir je peux assumer. Je te joue pas de violon, je te joue pas de violon.
C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. Je lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Hey. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Je te donne mon cœur fait par Bobo. Même t'as pas à elle, je fais la photo. Tout va bien. Piloti, cocktail, coco. J'écoute pour m'aller, elle chante Lolo. Je suis certifié, je peux pas te follow. Tout va bien. Madame veut connaître mon budget pour la vie. Mais ça charbonne encore donc c'est varié. À la fin du bal on rencontrera les amis. Versace sur ma gauche, je l'emmène danser. Il paraît que les Seychelles c'est cher. Dis-moi le prix, je te dis si c'est dans mes corps. Fais pas la vis, là tu pas né hier. Tu fais la meuf qui boude dans le féfé. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. Je lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. J'te donne mon cœur fait par Bobo. Même t'as pas à elle, j'fais la photo. Tout va bien. Piloti, cocktail, coco. J'écoute au Malais, elle chante Lolo. J'suis certifié, j'peux pas te follow. Tout va bien.
À cette heure-ci, j'dois être à Miami. Ils ont scellé la sapée, la Rolly. Un peu romantique, un peu gangoli. J'suis un peu Manny, j'suis un peu Tony. À cette heure-ci, j'dois être à Miami. Ils ont scellé la sapée, la Rolly. Un peu romantique.
fais à l'instinct, 10 millions et je laisse tomber. Il faut la crypto, Christo, on a pris le pisto, je vais faire les plats de la madre.
Je te donne mon café par popo, oui. Même t'as pas à elle, j'fais la photo. Tout va bien, yeah. Piloti, cocktail, coco. J'écoute au malais, elle chante lolo, oui. Je suis certifié, j'peux pas te follow. Tout va bien.
Tout va bien, donc, de Nino, Naps et Alonso. On est de retour sur Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr ou même depuis votre voiture avec le DAB+. Voilà, cette petite technologie qui vient améliorer le système des radios en France. Alors, on va poursuivre donc cette émission avec le volet international. Je me rends compte que je répète beaucoup ça, le volet international, mais on parle pas de volet. Voilà, on va partir sur la partie internationale avec, pour commencer, le football. On va dans un premier temps débriefer ensemble la dernière journée de Ligue 1 et de Ligue 2, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. En Ligue 1, on connaissait déjà le trio tête. C'était donc juste en dessous que le suspense était encore d'actualité. À la quatrième place et qualifié pour la Ligue Europa, on retrouve Rennes qui a bien fini sa saison avec notamment cet ultime succès sur le terrain de Brest 2-1. À la cinquième position et qualifié pour la Conference League, on retrouve Lille, tenu en échec à 3-1 partout et qui aurait pu espérer mieux, mais un top 5 et une place européenne reste quand même une bonne récompense pour la saison lilloise. Monaco, qui s'est écroulé sur le sprint final, et Lyon, trop irrégulier tout au long de la saison, ne seront pas, quant à eux, européens. En bas, on en a déjà parlé, mais c'est bien Nantes qui reste en Ligue 1, tandis qu'Auxerre descend avec 3 Ajaccio et Angers. Justement, en Ligue 2, il y avait du suspense, mais à tous les étages, que ce soit pour le titre, pour la montée ou pour le maintien. Alors, 3 faits majeurs se sont déroulés dans ce multiplex dantesque qu'on a pu vivre vendredi. Le Havre a bien obtenu son titre de champion de France de Ligue 2 en s'imposant 1-0 contre Dijon. Alors, il faut aussi dire qu'il y a eu une invasion du terrain dans le temps additionnel juste avant que l'arbitre siffle la vraie fin du match. Les Dijonais, qui sont coachés par Pascal Duprat, sont rentrés donc dans le vestiaire. Le temps que tous les Havrais, les supporters havrais sortent du terrain, en fait, les Dijonais ne voulaient plus rentrer sur la pelouse pour problème de sécurité. Et donc là, excuse-moi, c'est ton micro. Oui.
Je cite, c'est on s'est senti agressé.
C'est ça. Et du coup, les Havrais sont eux revenus sur le terrain quand il y avait plus personne sur le terrain. Et l'arbitre a sifflé la fin du match sans les Dijonais sur la pelouse.
Sachant qu'il restait en gros 15 secondes.
C'est ça.
Quand il y a eu l'invasion.
C'est ça.
Enfin, l'invasion, l'envahissement.
On aura le temps de revenir sur tout ça. Ensuite, Metz, bon, rien à dire au niveau, je crois, en tout cas des débordements. Metz s'est imposé 3-2, je vais y arriver, contre Bastia. Et a obtenu donc sa montée en Ligue 1. Mais, c'est si la LFP...
Changement de règle.
C'est ça. Si la LFP valide la défaite bordelaise. Alors oui, pourquoi? Eh bien parce que le match entre Bordeaux et Rodez a été arrêté au bout de 20 minutes après qu'un supporter ait pénétré sur la pelouse pour bousculer Buades qui venait d'ouvrir le score. Donc voilà, il y a eu plein de rumeurs de choses dites et démenties sur le fait que le joueur en question a eu une commotion cérébrale, qu'il a été à l'hôpital. Ensuite voilà, il y a pas mal de choses qu'on t'a dit après sur le fait que les images sont pas tellement choquantes. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas tout ce qui s'est passé, c'est que le match a été arrêté. Une décision devait être prise lundi. Donc hier.
Enfin, et faut rappeler que, enfin voilà, le match s'arrête à la 22e minute. Il y a 45 minutes de délai derrière, ouais, qui reprennent. Et c'est au bout de ces 45 minutes de délai où c'est l'arbitre et non quelqu'un de la Fédé, voilà, qui est venu en conférence de presse dire voilà, suite à ça, on arrête le match.
Oui.
Bravo la Fédé.
Et donc. Donc là, on est sur quelque chose d'assez particulier, puisque en fait, Bordeaux techniquement, officiellement, on va dire, peut encore, si le match avait fini, on va dire, si le match reprend à la 22e minute, peut encore, mathématiquement, passer devant Metz et se qualifier pour la Ligue 2, tout comme Rodez peut descendre en national. Donc, au
en
niveau
de scénario,
alors, oui,
il fallait que Bordeaux,
j'allais l'expliquer,
dans l'état des lieux, je crois, marque 6 buts.
C'est ça. En gros, s'il y a tapis vert, Rodez reste en Ligue 2 et ce sera Annecy qui ira en National 1 et Bordeaux restera en Ligue 2 et Metz ira en Ligue 1. Si le match reprend, Rodez doit s'imposer pour se maintenir. Sinon, voilà, comme je l'ai dit, ce sera...
Il doit conserver au moins
sinon,
le 1-0.
Annecy,
ouais.
C'est ça. Sinon, ce sera Annecy qui va...
Qui reste en Ligue 2.
Qui va rester en Ligue 2. D'ailleurs, Annecy qui a beaucoup pesté, qui a fait beaucoup de communications
oui,
sur les réseaux sociaux. Et Bordeaux doit, s'ils veulent monter, gagner par 5 buts d'écart. Et donc, voilà, si on reprend 1-0, il faut qu'il marque 6 buts. Voilà, donc bon, c'est pas impossible, mais c'est quand même pas très probable. Parce que ça reste quand même une équipe de haut de tableau contre une équipe de bas de tableau.
En fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas l'incidence. Je suis pas sûr qu'ils mettent les 6 buts derrière, tu vois.
Oui, bon, ouais. Bref.
Départ. Mais si le match est rejoué, là, oui, c'est un scénario qui peut être plus envisageable, en tout cas.
Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de... On va se concentrer sur ce sort du Rodez-Annecy, parce que, bon, Dijon, voilà, on sent qu'il y a eu un peu de mauvaise foi.
Oui, il y a pas mort d'homme, hein, c'est
non, y a
à 10 secondes près, voilà, ouais. C'est alors effectivement, je comprends que l'arbitre ait coupé le match histoire que les gens rentrent. Mais je trouve que c'est une décision plus plutôt correcte, comme ça a permis que les gens regagnent tranquillement leur siège et que ça a pas gâché au final la fête derrière. De toute façon, le premier qui a été acteur là-dessus, ça a été l'entraîneur.
Oui.
Qui a vu les gens, il a dit non, vous repartez, enfin.
Ça ouais.
Ça a pris du temps parce que voilà forcément il y a tout le monde est descendu mais ça restait voilà bon enfant et après voilà ce qui s'est passé à Bordeaux
ouais du coup par rapport à ça
c'est un petit peu habitué à Bordeaux hein, les soucis
ouais,
surtout avec ce cop là je sais pas si t'as vu un peu des images un peu élargies de la scène ou si t'as vu vraiment que depuis le terrain.
Élargi, il est simplement sorti de la bâche qui est en dessous et puis il est parti pousser.
Mais bon, c'est-à-dire que déjà il y a quelqu'un qui l'a vu de base sous cette bâche-là. Donc quelque part, il y a de la complicité.
Ouais.
Ensuite, donc il rentre comme ça. Je trouve ça quand même étonnant, il y a toujours quelqu'un qui est en face surtout derrière les buts comme ça pour checker en cas de débordement. Voilà. L'attitude du joueur, lui, c'est pas d'aller narguer le cop. Il y a une caméra qui est juste en face. Lui, c'est juste faire sa célébration devant la caméra.
Ah oui.
Et là, il le pousse.
Non, il le pousse.
Il le pousse, mais bon, quand tu pousses, le coup, on sait pas trop où ça a fait l'impact. Donc, si se l'est pris effectivement au niveau de la gorge, le poussement, ça expliquerait aussi ce qui a été annoncé depuis. Voilà, des pertes de.
Ça a été démenti, ça, pour le coup, après.
Je sais pas, hier, c'était remis, donc, enfin.
Alors, en tout cas, ce qui était dit, c'est qu'il n'est jamais finalement allé à l'hôpital et qu'il a quitté le stade avec ses coéquipiers, comme tout le monde. Effectivement, par contre, il y a eu un protocole commotion, parce que du coup, ça a été enclenché par le médecin du club de Rodez, mais après, quelqu'un d'extérieur à ça est venu, tout simplement, voilà, dire que c'était pas,
après, ça nécessitait pas. Ce qu'on voit aussi, c'est que, dans le même temps, il y a quand même eu aussi des projections d'objets sur le terrain.
Ouais.
Voilà, donc, sur le papier, j'ai envie de dire, Bordeaux, il a pas toutes les cartes, en fait, pour rejouer le match, parce qu'il y a un manquement en termes de sécurité.
Oui.
Et il y a la jurisprudence de tout ce qu'on a vu en Ligue 1 cette saison. Ouais.
Le match devrait jouer à huis clos, peut-être s'il est rejoué, j'imagine.
Ouais, je pense.
Ah, bah, de toute façon, s'il est rejoué, oui, ce sera à huis clos.
C'est ça, parce que ça relance le débat du est-ce qu'on doit sanctionner le club, l'équipe, quand c'est un ou deux supporters qui se comportent mal. Donc voilà, ça reste un long débat.
Dans
le scénario, effectivement, le plus probable, c'est que tapis vert. effectivement, je pense. En tout cas, donc décision qui va être rendue lundi prochain,
lundi prochain,
là, mais parce qu'apparemment ils ont pas le temps de faire.
Non, mais déjà, moi j'ai pas compris pourquoi ils ont pas. Enfin, il y avait le dimanche pour déjà étudier ça.
Non, tu avais aussi le samedi pour bosser. Pour,
oui, le samedi, oui, parce que samedi, ça joue le
tout le week-end.
Oui. Ça, exactement. En fait, ils avaient tout le week-end
pour travailler. Ils avaient tout le week-end déjà pour.
Et ils arrivent le lundi, ils disent semaine prochaine. Allez, semaine prochaine.
Non, c'est ça. Puis je crois qu'il y a que Bordeaux en plus qui a été entendu.
C'est fou de pas être autant dans l'urgence alors que t'as un club. Enfin, t'as autant de clubs qui sont dans l'attente. Mmh. T'en as qui peuvent descendre, t'en as qui peuvent monter. C'est horrible. Enfin,
et sachant que si on se fie réellement au règlement, ce match-là, techniquement, ne peut pas être rejoué puisqu'il est spécifié que ce soit dans le règlement de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, les derniers matchs de la saison doivent se jouer en même temps, simultanément, pour éviter justement qu'il y ait des magouilles,
des calculs,
des choses comme ça. Quoi. Donc ouais. C'est pour ça que, enfin, ça, tout le monde en fait là-dedans a tort et tout le monde a raison vis-à-vis du règlement, quoi.
Effectivement. On suivra ça évidemment dans les semaines suivantes pour voir si Bordeaux monte ou pas.
À mon avis, on en a encore pour un bon mois parce que selon la décision, il y a des clubs qui vont porter plainte et ça va aller plus loin et puis ça va sûrement se refaire partie de ping-pong.
Donc on verra ça évidemment dans les semaines à venir. Du suspense, il y en a eu aussi dans les autres championnats européens, avec notamment le choc de Dortmund en Bundesliga, et vous en avez entendu parler un peu les gars, c'était il y a une dizaine de jours, virtuellement champion avant la dernière journée, avec 2 points d'avance sur le Bayern, les jaunes et noirs n'ont pas pu faire mieux que match nul 2-2 contre Mayence, tandis que les Munichois s'imposaient à Cologne. Donc, nouveau titre de champion d'Allemagne pour le Bayern, qui entretient la disette du côté de Dortmund.
Et qui vire son board.
Exactement.
Dans la foulée.
C'était ça, juste après. En Angleterre, on savait déjà que Manchester City était champion de Premier League, malgré l'excellente saison d'Arsenal, qui était leader pendant une grande partie de cette saison. En Espagne, la saison morose en Liga a découlé sur un premier titre de champion d'Espagne pour le Barça depuis 2019. Enfin, en Italie, on savait déjà que la belle saison du Napoli a été récompensée par un 3e Scudetto, mais on sait désormais qui les accompagnera en Ligue des Champions l'année prochaine. Après tous les imbroglios liés au retrait de points de la Juve, ce sont finalement la Lazio, l'Inter et l'AC Milan qui iront en Champions League. Faustin, c'est l'heure de parler basket, puisque voilà, il est déjà 20h51. Tu vas nous parler des finales NBA, notamment. Et puis aussi, on va revenir un peu dans le passé avec la demi-finale folle entre les Celtics et Miami.
Et Miami, tout à fait. Parce que du coup, j'en avais brièvement parlé la semaine dernière par faute de temps, mais celle-ci mérite d'en parler beaucoup plus. Je vous avais laissé donc il y a encore 2 semaines, lorsque Miami gagnait déjà 3-0, sachant qu'il faut gagner 4 matchs. Pour remporter une série. Il leur restait donc qu'un seul match pour se qualifier en finale. Cependant, le dernier match de cette série ne s'est joué qu'une semaine plus tard. En effet, les Celtics se sont mis en route pour écrire l'histoire de la NBA, car 150 fois dans cette histoire, une équipe a été menée 3-0 dans une série de playoffs, mais aucune d'entre elles n'a gagné cette série. Cependant, 5 d'entre elles sont arrivées à remonter à 3-3 et Boston en fait donc partie en ayant forcé un Game 7 grâce au buzzer-beater de Derrick White, climatisant toute la ville de Miami. Le match 7 a donc eu lieu au TD Garden à Boston. Ils avaient moyen d'écrire l'histoire devant leur public en remportant ce match 7 et en établissant le premier river sweep de l'histoire de la NBA. Mais quoi qu'il en soit, l'issue de ce match allait être historique, car soit on avait, donc, comme je l'ai dit, la première équipe à remonter un 3-0, soit la deuxième équipe à avoir fini 8e à la saison régulière à aller en finale NBA. Et c'est donc la deuxième option qui a été choisie, car c'est bien Miami qui a remporté le match 7 et qui se dirige vers les finales NBA contre Denver, menée par leur leader Jimmy Butler, qui a donc été élu MVP des finales de conférence Est à une voix près face à Caleb Martin, qui a fait une demi-finale, une finale de conférence complètement folle.
Et pour les finales qui ont déjà commencé, et il y a oui, déjà eu deux matchs. Est-ce que toi, exact, déjà, tu as eu l'opportunité d'en voir?
J'ai pu regarder la première mi-temps du premier et la okay, toute fin du match du dernier en direct, évidemment. Bah, du coup, le premier match, c'est donc les deux matchs se sont joués à Denver. Le premier a été mené, dominé à domicile, 104 à 93, bien aidé par le nouveau triple-double de Nikola Jokic. Triple double, c'est donc aligner 10 points, 10 passes des 10 rebonds au minimum. Et c'est d'ailleurs le deuxième joueur de l'histoire à en faire un lors du premier match de finale NBA après Jason Kidd en 2002. Le deuxième match a été remporté par Miami qui égalise donc sur le score de 111 à 108. Une fin de match très serrée. J'étais très content de me réveiller à cette heure-là. Et le Heat a donc réussi à limiter l'influence de Nikola Jokic en le limitant à seulement 4 passes décisives, ce qui a vraiment fait la différence dans ce match.
Et rapidement, ton pronostic?
Moi, j'aurais dit Denver.
Ok.
Parce que Miami est usé physiquement après une série en 7 matchs comme ils l'ont vécu, et même sur un point de vue jeu.
Ouais.
Mais bon, Miami a fait des prouesses depuis le début des playoffs, donc c'est pas dit non plus, mais je vois quand même plus Denver.
Ok, ça marche. On verra ce qui se passe. Donc, match 3, c'est quand?
Oula, c'est demain soir, il me semble.
Ok, à Miami. Très bien. On suivra ça, évidemment. Tennis maintenant, avec l'incident technique de la semaine dernière. On n'a pas eu trop le temps de parler de Roland-Garros. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de Français depuis jeudi soir. En effet, aucun tricolore n'est parvenu à rallier le troisième tour. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi en double messieurs et en double dames. Un nouvel échec cuisant pour le tennis français qui doit se contenter de regarder la fin du tournoi à la télé ou en tribune. Car les tournois simples avancent et les favoris sont pour la plupart au rendez-vous des quarts de finale qui ont débuté aujourd'hui. Alors, chez les hommes, Novak Djokovic s'est imposé tout à l'heure en 4-7 contre Karen Khachanov, alors que en ce moment même, Carlos Alcaraz défie le grec Stefanos Tsitsipas. On est en night session et actuellement, donc Carlos Alcaraz mène à 5-2 dans la première manche, service à suivre pour l'Espagnol. Demain, un match à l'accent scandinave opposera le Danois Holger Rune au Norvégien Casper Ruud, tandis que Alexander Zverev jouera la surprise du tournoi, l'Argentin Thomas Martin Etcheverry. Du côté des dames, on connaît déjà l'affiche de la première demi-finale qui verra s'affronter la Biélorusse Sabalenka et la Tchèque Muchova. Demain, deux belles affiches avec le remake de la finale de l'an passé entre Iga Swiatek et Coco Gauff, ainsi qu'un match prometteur entre la Tunisienne Once Jabeur et la Brésilienne Béatrice Haddad Maia. On va passer maintenant au cyclisme, au vélo, avec donc le Critérium Dauphiné, oui, parce que une semaine après la fin du Giro et la victoire du Slovène Primoz Roglic, c'était le début dimanche du Critérium Dauphiné avec la fameuse donc grande répétition avant le Tour de France qui va se passer en juillet prochain. Alors pour les trois premières étapes, trois Français se sont imposés, ou plutôt deux, puisque Christophe Laporte s'est imposé dimanche et aujourd'hui même. Hier, c'est l'ancien double champion du monde Julien Alaphilippe qui l'a emporté au sprint à la Chaise Dieu. Enfin, un petit mot de Formule 1 avec ce week-end le Grand Prix d'Espagne qui a vu l'emporter, une fois n'est pas coutume, le champion du monde Max Verstappen. Toujours largement leader au classement, le Néerlandais dépasse les deux pilotes de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell. Le Français Esteban Ocon, qui avait fait podium la semaine d'avant à Monaco, se classe 8e. Voilà pour le petit point sport au niveau du tennis. Carlos Alcaraz, donc comme je le disais, va servir pour le 7. Cédric, tu voulais peut-être ajouter un mot sur la Formule 1 rapidement.
On pige beaucoup. Non, ouais, la F1, c'est compliqué en ce moment. Enfin, il y a des décisions de la FIA encore qui font discussion. Là, notre pauvre Pierre Gasly qui se prend deux pénalités pour le fait qu'il aurait empêché de concurrents de faire de bons tours. En l'occurrence, c'était Sainz et c'était Verstappen. Au final, ça les a pas empêchés de se qualifier devant lui. Donc, on sent que des fois, dans les décisions, Bah, ils réfléchissent seulement règlement, ils font pas de l'analyse. C'est un peu dommage.
Ouais.
Surtout que, enfin voilà, en plus, on avait encore normalement une quatrième place sur la grille de départ pour Alpine. Les Alpines, depuis deux grands prix, quand même, qui sont présentes. Alors, ouais. Monaco, c'est toujours spécial, hein, comme grand prix, parce que si t'arrives à bien régler ta voiture pour les qualifications, et que t'arrives après le premier tour à conserver ta place, tu sais que c'est quasiment gagné. Donc, faut voir ce que ça va donner.
Ok.
Mais en tout cas, enfin, les fans de Ferrari en ce moment, c'est compliqué aussi pour eux. Quoi.
Effectivement. On va vous laisser avec le générique et puis juste après nous, c'est une rediffusion des Plantes Vagabondes. Et puis, bah, on va se retrouver nous la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne soirée.